Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Bravo d'être là dès 10h du matin aux Utopiales pour cette conférence sur l'avenir du travail. On va faire en sorte que ce soit gai, voilà, sur un sujet assez fort, pouvant peut-être être aussi assez lourd et qui est en pleine évolution. Donc aujourd'hui, avec nous pour parler de l'avenir du travail, il y a donc Sylvie Denis qui est écrivaine, qui publie aux éditions de La Talente et d'Actu SF, qui a écrit notamment L'Empire du Soleil et La Saison des Singes, L'Empire du Sommeil, pardon, et La Saison des Singes aux éditions de La Talente. À côté, il y a Anne Larue, qui est auteure aussi chez La Talente et qui a écrit La Vestale de Calix, paru en 2011, si je ne m'abuse. Il y a Richard Morgan. Donc Richard Morgan, c'est l'English Touch de la conférence, donc auteur anglo-saxon britannique, qui est connu pour avoir écrit le roman Carbone modifié et Black Man, qui avait reçu le prix Arthur C. Clarke. Donc Richard va parler en anglais. Il est possible, normalement, vous pouvez récupérer au fond de la salle des casques de traduction pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, et c'est le Chanel numéro 1. Voilà. Et pour les anglophones dans la salle, le Chanel numéro 2, s'ils voudraient suivre les débats en français. Et enfin, Dave Calvo, autrice chez La Volte et designer de jeux vidéo, qui vient de publier Toxicorama, je crois, chez La Volte. Pardon, Toxoplasma, c'est le matin, voilà, chez La Volte. Alors, on va parler aujourd'hui de l'avenir du travail. C'est un sujet d'actualité. On a beaucoup parlé du travail récemment, la loi travail, on parle de révolution, il y a la révolution numérique, ubérisation de la société, le digital labor, les différentes réformes du travail. On serait tous, paraît-il, des entrepreneurs. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont évoluer, mais je rappelle quand même les chiffres du chômage, environ 6 millions de personnes qui n'ont pas encore d'emploi. Donc quel avenir pour le travail, qu'on sait tout ça, et avec l'avancée technologique. Et justement, j'ai demandé à chacun des intervenantes et intervenants qu'est-ce qu'ils pensent pour commencer, comment ils voient le futur du travail. On va commencer avec Anne Larue. Comment vous imaginez ça ?
Alors, l'avenir du travail, c'est très simple. Le produit national brut prendra en compte en positif l'éducation, la santé et autre chose, de les prendre en négatif comme des dépenses. Par ailleurs, le travail des femmes à la maison sera enfin considéré. Les femmes auront un salaire. Les femmes, je veux dire, ce qu'on appelle les ménagères. Du coup, la dichotomie entre ménagères et femmes qui travaillent tombera à l'eau. Les idées que Silvia Federici et toute l'équipe de réflexion italienne sur la question développe depuis 1977 seront enfin entendues. Bref, comme vous le voyez, l'avenir du travail est absolument radieux.
Très bien, c'est encourageant. Dave Calvo, quel avenir pour le travail ?
Déjà, je voudrais qu'on définisse travail, parce que c'est difficile de se positionner vis-à-vis de cette question tant qu'on ne sait pas ce que c'est que de travailler. Moi, tu as parlé d'emploi. Pour moi, travail et emploi, ce n'est pas la même chose. Je crois qu'on a été dépossédé de la notion de travail dans nos sociétés libérales. Je pense que l'enjeu de ce débat, c'est aussi de comprendre ce que c'est que notre rapport au travail et ce que c'est que cette chose qu'on se sent obligé de faire pour exister, en fait, quoi. Donc moi, j'ai du mal à me dire qu'il y a un avenir du travail sans essayer de comprendre ce qu'est le travail aujourd'hui concrètement. Ici, nous, on est occidentaux et occidental, et donc on est centré là-dessus. Mais le travail en Afrique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. On est dans une logique aujourd'hui de remplacement du tout, mais non plus de complémentarité, mais de dissolution du travail. Et y a beaucoup de gens qui se paument là-dedans, et notamment pour les générations qui arrivent, c'est très 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 difficile d'envisager quoi que ce soit, parce que là, pour le coup, il n'y a plus du tout de repères par rapport à ce qu'on est censé faire ou pas faire, quoi. Donc je pense que, avant de parler de l'avenir du travail, moi je pense qu'il faut parler du présent du travail, parce que c'est pas du tout évident pour tout le monde que le travail, c'est pas forcément l'esclavagisme, c'est pas forcément le salariat à tout prix, quoi. Voilà.
Sylvie Denis.
En tant qu'auteur de science-fiction, je ne peux pas ne pas parler de l'avenir. Pour moi, le travail en tant que tel, ce qu'il faudrait, c'est qu'il disparaisse, comme dans un bouquin de Michael Moorcock qui s'appelle « Le danseur à la fin des temps », et où lesquelles les richesses étant telles et le pouvoir procédé par les humains étant tel que personne ne travaille. tout le monde se livre à des activités, en général artistiques, fait de la musique, s'occupe avec ses amis, enfin bref, vit une vie que vivent certaines personnes qui ont un peu d'argent sur cette planète. Sauf que c'est tout le monde. Alors effectivement, c'est très 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 loin dans le futur, mais si on n'envisage pas le futur et si on ne regarde pas le présent pour voir ce qui est en germe, on risque de rester coincé dedans, et ça m'ennuierait beaucoup, beaucoup.
Alors justement, pour rebondir sur ce que dit Sylvie, en 1977, le groupe Adret avait quand même écrit un bouquin qui s'appelait « Travailler 2 heures par jour », qui mettait en évidence le caractère absolument débile des 3/4 des choses qu'on appelle travail. Et je crois qu'il y a eu encore un autre livre plus récent qui s'appelle « Travailler 1 heure par jour ». J'ai constaté dans le cadre de mon propre travail à quel point les 3/4 des choses qu'on fait faire aux gens sont absolument vides. Et en fait, on entretient finalement les gens, on les oblige à travailler uniquement pour les occuper. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose effectivement dans la suppression générale et définitive du travail qui nous rapprocherait, je ne sais pas, du modèle d'un chien, par exemple, qui ne travaille pas et ne s'emporte pas plus mal. Un chat, c'est encore pire. Hein. Je vois que tu as adopté le principe de Fabrice Chautin, auteur de science-fiction. Les chats, c'est vraiment des branleurs. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir de façon plus claire plutôt que de continuer à être dans une logique du travail. Voilà.
Richard.
Okay. Well, first thing to make clear is that science fiction writers have a really bad track record when it comes to predicting the future. We almost always get it wrong.
It's not our job.
And I'm very wary of trying to extrapolate too much. I think there's no question that automation is coming in a big, big way. How soon it's coming is up for grabs. I mean, there are, as with all these debates, there are people who say, oh, you know, in 10 years' time, we're going to have 40% unemployment across the Western world, and all cars will be automatic, no one will have driving jobs, doctors are going to disappear because algorithms will have taken their jobs. It's not that these things aren't coming, I think they are coming, but I'm pretty sure that A, it's going to take longer than the technophiles believe, and B, when it arrives, it won't be in the form that we think it's coming, because that's always the way. The future is never quite what you think it's going to be. There's always, because it depends on factors that haven't yet arisen, and that, again, that's why we're so bad at prediction. William Gibson, who is my god as far as science fiction writers are concerned, envisaged a future 200 years from the 1980s, and in many ways he got the texture and tone absolutely perfectly right. But he didn't envisage mobile phones, which he'll freely admit. It's such a massive part of how we exist today. But if you go back to the 1980s, it just wasn't on the map anywhere. You can say the same thing of the personal computer. If you go back to the 1950s and 60s, you have executives at IBM, and you would think that those guys would know what they're talking about, saying, yeah, can't really see a need for more than about 5 computers globally. That is not the future that we ended up with. Obviously, the parameters shift, and the future doesn't necessarily look anything like the present. So you can't, it's tough to predict, and I try not to too much. In fact, most of my futures are set several centuries ahead, so that when I'm proven wrong, I'll already be dead, and won't have to answer awkward questions on panels like this. So anyway, yeah, back to the point. Automation is coming in a big way, but it may be a while. The automated self-driving cars are not proving quite as reliable as everybody thought they would be. And there is a second issue with the cars, which I would pick up on, which is that, I don't know about you guys, but I like driving. I enjoy it. Now, I appreciate that's not everybody, but I think there's a fair percentage of the population who are with me on this, that driving a car is actually a pleasure. So you've got to factor in the human element, and in fact, the big issue is going to be to how we factor that human element in. I see one basic problem, and that is that, again, as we're not very good at predicting the future, we're also not very good at unlearning old paradigms. And we are going to have to unlearn a lot of old paradigms. We're going to have to accept that in order for our societies to continue in a form that's more or less recognizable, we have to take away the emphasis from earning. Because our societies are built upon the assumption of consuming. We are all consumers now. And that's why our economies are supercharged. In order to consume, you have to have money. If you can't earn the money, you can't consume. And the entire tower comes toppling down. You would think that that was an obvious thing, that anyone could see that, and that therefore we have to put systems in place, provision for when the automation does come in a big way, that there will be some provision to allow this consumer society to continue. But I look at what's going on in America at the moment, I look at what's going on in my own country at the moment, and I see the most intransigent fucking stupidity rampant. And what this stupidity mostly seems to consist of is looking desperately nostalgically at the past. So the people who are supposed to be leading us, the people who are supposed to be making the big decisions for our future, are facing the wrong way. They are looking at the past and wishing they could go back there. As you'll all know, that yet is not feasible. So my concern is that, yes, jobs are going to evaporate, automation will start to take over in a big way, the very structure of our society is going to become unstable. All of that is fine because that is just progress. That's how history happens. It's not a new process. That's always been going on. It's accelerating now, but it's not new. My worry is that we seem to be regressing at a political level to a kind of backward-looking, tribalistic essentialism, which cannot address these issues. And that's what really frightens me. It's not that the actual disappearance of work doesn't frighten me, but the failure of human thinking in the face of modernity really terrifies me, because the people who need to be thinking about this and making plans and organizing are doing the exact opposite.
Pour rebondir aussi sur un autre thématique. Donc on est ici dans un salon qui parle de science-fiction. Si on regarde les dernières œuvres sorties culturelles, que ce soit à la série télé, en film, donc je pense par exemple à la série d'Arte Tripalium, je pense à le film qui a eu la Palme d'Or l'année dernière, moi, Daniel Blake, je pense à des nombreux livres, notamment L'Avenir du Travail par La Volte, les éditions La Volte, il y a une précarité qui est généralisée. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les œuvres qui imaginent l'avenir du travail, il y a quand même une vraie notion de précarité. Dave ?
Oui, alors moi là-dessus, je suis extrêmement vigilante parce que, en tant que travailleuse indépendante, je me rends compte que je participe moi-même à la précarisation générale. C'est-à-dire que pour survivre en tant qu'auteur et en tant qu'autrice, je ne sais jamais s'il faut utiliser l'un ou l'autre. Autrice, très bien.
Auteur aussi, ça marche.
Non, mais oui, je sais que ça marche les deux, c'est pour ça que je précise. Je sais que j'ai développé un vrai instinct de survie avec mon écriture, et donc je suis rentré très vite, avec beaucoup de joie, dans ce qu'on appelle le gig economy, c'est-à-dire cette espèce de jeu avec le monde où on va finalement dire, avec le monde du travail, où on va finalement dire oh, moi je vais bosser 3 mois dans un studio là, puis après je vais bouger, je vais prendre 2 mois de vacances aux Maldives, je suis jamais aux Maldives, puis après je vais faire ça pendant 2 semaines, puis après je vais faire ça, et on planifie un petit peu notre année comme ça, des fois ça foire, des fois ça marche, et la plupart du temps ça marche parce que ben, quand on développe un peu des outils pour se faire payer dans les temps, pour pas se faire trop abuser sur les délais, tout ça, ça se passe bien et on peut finalement se construire une espèce de vie comme ça indépendante, très, où on peut s'occuper de soi, on peut s'occuper des gens qu'on aime et tout. C'est pas mal. Mais c'est hyper égoïste en fait. C'est vraiment là un danger terrible parce que si on voit que pour des gens comme nous ça fonctionne, ils vont commencer à se dire ben, pourquoi est-ce qu'on l'applique pas à tout le monde ? Et là on a un détricotage en fait du monde du travail qui n'est pas le même. Les gens n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas la même manière de bosser, n'ont pas le même rapport à la réalité, quoi. Et en fait ils sont en train de se dire ah ben, si ça marche pour telle catégorie de population, ça devrait marcher pour tout le monde, parce que ça veut dire plus de sécurité de l'emploi, ça veut dire que moi je peux être viré quand je veux, j'ai pas d'assurance chômage, j'ai pas de retraite. Enfin, moi je me suis assis sur mes retraites depuis mes 10 ans, quoi. Je sais que pour les nouvelles générations c'est compliqué, quoi. Il y a même des pubs maintenant qui targetent les plus jeunes en leur disant comptez pas sur votre retraite, alors profitez-en, dépensez votre argent maintenant, quoi. Donc je pense que tout ce phénomène-là de gens comme moi qui vont tenter de se bâtir une vie un peu et d'essayer de grappiller des bouts de liberté parce qu'on peut, parce qu'on a les outils pour, et ben finalement on donne les munitions à l'ennemi pour pouvoir en fait détruire le tissu social, notamment en France, et la loi travail c'est presque c'est le début de ça en fait, quoi. Et j'ai j'ai du mal à voir comment est-ce que moi je pourrais revenir à des modèles de boulot différents, et j'ai du mal à voir comment est-ce que ils vont pas se rendre compte qu'en fait les tenants du pouvoir dont Richard parlait tout à l'heure, ces irresponsables totales qui sont à la barre du navire en ce moment, vont pas vouloir en fait annihiler tous ces droits à un moment donné au nom de la liberté en fait, quoi. C'est déjà ce qui est en train de se passer, quoi.
Si je peux ajouter une chose, c'est qu'en fait on est en train d'assister à une transformation, c'est-à-dire que d'une part, comme disait Richard Morgan, on voit que des communs et des ensembles disparaissent, et que ce qui est privilégié c'est l'individu, et que cet individu peut trouver un moyen de se remettre dans des groupes, mais que malheureusement tout le monde peut former des groupes, c'est-à-dire ça peut être des éléments les plus régressifs de la société et les plus dangereux politiquement, ou les autres. Et si les autres ne prennent pas conscience du fait que effectivement économiquement tout conduit à nous transformer en unités de production séparées les unes des autres, si on ne trouve pas d'autres moyens de recréer des networks, des réseaux et des communautés bienveillantes et qui agissent pour l'humain, pas uniquement pour le fonctionnement de la grande machine, on est un petit peu dans la panade.
Anne, sur la précarisation généralisée.
Du coup, je me sens un peu obligée de parler du modèle que j'ai élaboré dans ce que la formule étant un peu idiote, mon dernier roman, c'est plutôt une sorte de fanzine améliorée avec des petits dessins qui s'appelle La fille geek, et qui justement, ça pose bien le problème. Tu es graphiste, non? C'est des métiers comme ça? Oui, game designer, c'est-à-dire que tous ces métiers... alors, mon héroïne, c'est une rescapée de l'ère cyborg, donc elle a un ordinateur, elle est la seule pratiquement au monde à en avoir un, plus personne n'en a, et elle travaille dans des conditions atroces, elle n'a pas le droit de s'arrêter une seconde, elle a 4 pauses par jour pour aller pisser, enfin, c'est-à-dire... Et tout ça, c'est normal, c'est naturel. Et le seul travail... Elle a réussi à avoir ce merveilleux travail dans le secteur électronique, le secteur de l'ordinateur, et c'est une sorte de mythe, il y a un musée des tradition cyborg, enfin c'est vraiment le fantasme de l'ordinateur, c'est quelque chose d'absolument énorme, la geekerie c'est un monde passé sublime qu'on a perdu, c'est vraiment ce sentiment d'intense nostalgie, et les conditions de travail deviennent des conditions totalement individualistes où les gens sont ni contents ni pas contents mais sont complètement dans l'acceptation. Alors par exemple, une autre héroïne, elle est balayeuse au four banal, le four banal c'est le seul lieu où tout le monde peut se retrouver pour 2 ou 3 activités comme acheter à manger et faire des rencontres, et donc c'est cette vie, cette petite vie, ce que j'ai essayé de montrer, c'est à quel point c'était admis, que c'était normal. C'est-à-dire la fille toute joyeuse, elle est jeune, elle est joyeuse, elle rigole et elle dit « Oh là là, mince, j'ai que 4 pauses par jour. Mon ordinateur va m'appeler en faisant ping. » Donc l'ordinateur l'appelle au travail et elle embrasse même pas les gens qui viennent la voir. Elle dit « Attention, attention, là, il m'appelle, là, je peux pas. Attends un peu, je vais... » Donc, c'est-à-dire que je suis peut-être très sensible à ce qu'on appelle les nouvelles, pas si nouvelles, hein, technologies. Et au fait que peut-être, toujours dans le manifeste cyborg de Donna Haraway, on a quand même cette phrase assez terrible que ces nouvelles technologies sont là d'abord pour nous séduire, pour nous amuser, et ensuite pour nous faire disparaître. Et c'est un peu le sentiment que j'ai en voyant par exemple le bureau du comptable à la fac qui est couvert de doubles, de doubles, de doubles, de doubles du service de tout le monde, et on ne sait plus où on en est. Il y a des papiers partout, etc. Enfin, comment dire, l'ordinateur duplique
l'imprimante
l'imprimante, dans l'occurrence, oui, restons simples, l'imprimante duplique, duplique, duplique. Dès qu'on fait une chose, elle est dupliquée. Dès que vous écrivez que vous avez fait une crème au chocolat, l'information est dupliquée sur 100 000 Facebook, etc. Enfin bon, il me semble que tout le problème, je ne dis pas que tout le problème vient des maudites technologies, je les adore personnellement et tout le monde les adore, je pense, mais il y a là comme un danger dont on ne prendrait peut-être pas assez conscience par rapport au travail. Moi, par exemple, je m'appelle officiellement Anne-Marie. On m'a fichu la paix avec ce fichu nom d'Anne-Marie pendant toute ma jeunesse. Je m'appelais Anne, tout le monde m'appelait Anne. Et au moment où l'ordinateur est arrivé dans nos vies, d'un seul coup, il y a eu une crispation. Mais c'est quoi? C'est Anne-Marie? C'est un tiret? C'est un point? C'est Anne et Marie? Enfin, une espèce de crispation. C'est un détail, hein, cette histoire d'Anne-Marie, mais un détail sur... Brusquement, il fallait être exactement conforme à son état civil, à ce qu'on était. Et finalement, la conformité conformité à l'état civil, c'est quelque chose d'un peu inquiétant aussi. Il me semble que tout ça, c'est on ne peut pas penser le travail futur si on n'a pas conscience peut-être de cette phrase de « ça nous plaît, ça nous amuse, qu'est-ce qu'on rigole avec Facebook et tout ça ?» Et c'est là pour nous faire disparaître, pas pour nous détruire au sens dramatique, pour nous faire disparaître, le fading.
Je ne suis pas du tout d'accord. Bah, ça, tu sembles postuler qu'il y a un « on » quelque part et un « nous » quelque part.
Non, c'est un vampire sans tête, t'as raison.
Voilà, il n'y a ni « on » ni « nous ». Il y a des systèmes complexes qui s'auto-organisent et qui existent et qui se propagent, alors qu'ils se propagent effectivement en nous, parce qu'ils n'existent que dans nos cerveaux, ils n'existent nulle part ailleurs. Si chacun d'entre nous disparaît et que nos cerveaux disparaissent, tout disparaisse, parce que ça n'existe pas ailleurs. Mais il n'y a pas de nous. Par contre, qu'on soit dans un système, et on a toujours été dans un système qui avance et dont on ne sait pas où il va, et qui en ce moment s'accélère de façon assez inquiétante, par certains aspects, oui, ça, c'est un fait.
Richard, oui.
Mais j'aime pas le « on ».
T'as raison, c'est un vampire sans tête. Méfie-toi du truc où tu ne vois pas la tête, comme dit le papa de Ron Weasley à Harry Potter.
Richard.
Yeah. Yeah. What was the question again? The what, sorry? Yeah. The precariat. Yeah. Yeah, very much so. I mean, unfortunately, we still seem to be enthralled to a broadly neoliberal perception of the world. And yes, this is the basis of this is individualistic. I don't have a problem with that per se. I don't think you can build a society without individuals, and I think where collectivism takes over from individualism, the results are generally not good. They're not pretty. But yeah, there is a failure to understand that we are social animals and that we function within social links. And I feel this very much because my day job is a novelist, so I spend my time locked in a room on my own, and no one cares. It's very sad. I sit in a room and I type, and I do that for about a year, and no one will even wonder what I'm doing for a year. And then at the end of a year, maybe my editor will get in contact and say, so, Richard, do you have a book for me? I've also done quite a lot of work in the games industry, and that's the exact opposite. It's intensely collaborative. You spend all your time in meetings with people from the other departments. You've got to writing a game story, but you've got to coordinate with level design. You've got to coordinate with game design. You've got to coordinate with the art department. You've got to coordinate with all. So that's intensely collaborative. And I have to say, I actually like the collaborative mode a lot more. I think it fulfills me as a human being much more. If I spend a lot of time on my own with a book, I usually become pretty unbearable to live with. And ask my wife. So, yeah, we are social animals and we need these networks. I think what we need to be doing is looking at where those networks can be sustained in the face of this oncoming tsunami of automation. It seems to me that one of the obvious ones is education, lifelong education especially. And I think this is something we're starting to see a little bit of a shift in this, but it hasn't done well, certainly in my country, and I think in the United States as well, because there is this kind of attitude that you can get out of school as fast as you can. You know, that being in school with teachers is a shit way to spend your time. And, you know, this is a very cool attitude to have at 16, but it's not really very grown up. And I think, yes, a future where education is just part of what you do, that you're constantly wanting to learn new things to develop your potential as an individual. And good teaching cannot be done by a machine. You can be taught by a machine, it's feasible, but good teaching requires a level of interaction, like the collaboration I talked about with the video games industry. So seminars, group sessions, back and forth, one-to-one with a supervisor when you're on your thesis or whatever. So that's one area where I would like to see an enormous amount of investment in the idea of teaching people, entire populations, that you don't walk away from education at age 16 or 18 or even 25. You know, that this is something you can do for the rest of your life and that you'll have time to do that. So, yeah, haven't answered the question at all, have I? The precariousness that we're stuck with seems to me because there is this focus on a very old-fashioned vision of what work is, going back to what was said earlier there, by David. If we only think of work as producing something that in return for which we're given money, then yeah, obviously that's going to crash soon. I don't know how soon. I mean, I think we've probably got a good 50, 60 years minimum before it really does crash. But it shouldn't be too difficult to shift the goalposts of what we consider work to be. But we have to have the will to do that. In some places I see that will, in other places I don't. And I think the fight is going to be to get hold of the levers of decision making and power, and start to change this very old fashioned idea of what work is, and shift it. And also to shift the idea of you can only, you know, the work will be the only way you can survive. There's been a lot of experimenting in Europe recently with universal basic credit, yeah. The idea that everyone can receive a stipend from the state. Now, it's a flawed concept, and it's certainly something that has to be looked at a lot more deeply. But ultimately, that is what's going to have to happen. Because if a machine is doing your job, the only way that you can get resources will be if it's provided through some kind of social network. So we have to get rid of the idea that receiving benefits of some sort is a problem, you know, that there's something wrong with it. Having said that, I spent 15 years, most of the last 15 years, living in the city of Glasgow, which has a colossal unemployment problem. And what I'm here to tell you, that if you simply say to people, you don't have to do anything, we'll just write you a check to live every week, that is catastrophic for the fabric of society. It destroys communities, it doesn't empower them. Because those people are not given anything else to do. They're simply told, the state will provide, now sit on your ass. They're not told to sit on their ass, but that's the assumption that they don't have to. In Glasgow, you have generational unemployment. You have families where the children are growing up, neither the mother nor the father work, the grandparents don't work and never have, and probably even the parents of the grandparents, maybe they didn't have a job either. And the problem is, nothing's being put in its place. And this is the issue. There has to be something else. There has to be something that says you are valid. You know, you're receiving your money through a state system. You're not seeing it as a direct exchange for work that you're doing. But there has to be some way to validate the existence of people who are receiving this universal credit. And that is going to require an enormous shift in how we look at things. And it's going to basically require the creation of other kinds of work. And that's why I say education, I think, is a good one. Because study is work. If you do it properly, it's work. Creativity is work if you do it properly. I think that the answer is that. We've got to somehow shift away from this very individualistic, quid pro quo, market-driven model where human existence is concerned. I have great faith in markets as a delivery system. I think they're very effective as a delivery system. So those can stay in place. But since so much of the work is going to end up being done by machines of one sort or another, we have to find a new basis for what the validity of human existence is. And that's going to be difficult because, as I said, we are swimming against the current here.
Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, pour éviter les écueils du précariat, le fait de décorréler les revenus avec du travail, c'est ce qui est absolument indispensable. C'est d'autant plus indispensable que ça fait très peur à plein de gens. Donc moi, ça m'amuse beaucoup. Et je ne pense pas que le fait de donner un revenu de base qui serait donné à tous, qui serait inconditionnel, qui serait à vie, j'oublie une quatrième condition, mais peu importe, et même aux enfants, à tout le monde, et même aux gens qui ont déjà de quoi vivre. Au contraire, ça pourrait fonder justement un système, une façon de dire aux gens, vous avez le droit d'exister, quelle que soit votre activité, quel que soit ce que vous fassiez de votre vie, la société fait en sorte que vous ayez de quoi vivre. Ça serait une forme, pour moi, c'est une nouvelle forme de contrat social. Et ça peut fonctionner de diverses manières. Il y a des gens qui réfléchissent dessus. Ouais.
Je voudrais prendre la référence de ce que dit Richard, même si je suis d'accord sur le fond avec toi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on fait une confusion, et je crois que beaucoup de penseurs économiques aujourd'hui l'ont vu, la différence entre le revenu de base et le salaire à vie. Je pense que c'est des choses qui sont importantes.
C'est deux choses différentes, oui. qui sont issues de deux courants différents, oui, voilà. de réflexion sur le revenu de
c'est
base.
C'est important de préciser ça. Et je pense qu'en fait, le problème, il n'est pas sur l'idée qu'on a un nouveau contrat social. C'est on a un nouveau contrat social avec qui ? Parce que l'intérêt des gens qui nous dominent...
Avec nous tous, entre nous tous.
Mais oui, mais pour que nous récupérions cette liberté entre nous tous, il faut déjà qu'on se débarrasse de l'oppression, quoi. Il faut déjà qu'on se débarrasse de ce qui est en train de se passer au niveau des processus de domination dans la société d'aujourd'hui. On est dans des relations de commande, on est dans un monde qui est sédimenté, on est dans un monde autoritaire. On ne peut pas se voiler la face, même s'il y a des masques de soi-disant liberté démocratique ou des masques soi-disant liberté individuelle au niveau du travail, on est quand même dans un système oppressif et répressif. Donc je pense qu'on ne peut pas amener tout de suite l'idée d'une revenu de base comme ça, donnée par une espèce de gouvernement bienveillant parce qu'ils ont envie de s'occuper de tout le monde, alors qu'en fait, on donne les clés à nos bourreaux pour nous enfermer pour toujours. Quoi.
L'essence du gouvernement, c'est d'être l'expression du peuple.
Mais non, mais c'est pas le cas, Sylvie, enfin, je veux dire.
Je dis pas que c'est le cas.
On est dans le mur, là.
Mais ça dépend vers quoi on veut tendre. Et les actions du présent n'existent que dans ce vers quoi elles vont tendre. Désolé, oui, mais j'aurais dû boire de café.
Non, mais c'est bien beau de tendre vers quelque chose, mais la lutte au quotidien et la lutte réelle des gens qui sont oppressés, elle est là, quoi. Donc moi j'aime pas trop cette vision la bouche en cœur de dire le revenu de base, on va pouvoir tous exprimer notre créativité, notre éducation, machin, dans un système est complètement un système d'esclavagisme déguisé, quoi. Donc avant ça, il y a un vrai travail sur la nature de l'oppression, il y a un vrai travail sur la légitimité du pouvoir à faire, et je crois qu'on ne pourra pas arriver à des solutions globales telles que le revenu de base, qui sont extrêmement dangereuses dans le cadre du système autoritaire aujourd'hui, sans le détruire avant. Il y a tout un tas de trucs à faire avant ça. Et je pense que le récupérer...
On peut faire beaucoup de choses en même temps dans une société. Est-ce que les retraites détruisent la société ?
J'ai jamais dit que les retraites détruisent la société, j'ai juste dit que la société sont en train de détruire les retraites. Par contre, il faut être complètement tanké pour pas voir que la plupart des jeunes d'aujourd'hui, dont moi, on va pas avoir de retraite. Mon père s'est fait piller sa retraite des trois quarts, alors qu'il cotise depuis 40 ans, 50 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face et ce qui est en train de se passer, quoi. Je suis d'accord avec toi, évidemment qu'on doit tendre vers le mieux. Moi aussi, je suis complètement utopiste et moi aussi, je suis complètement positive là-dessus. Mais à un moment donné, la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'oppression dans le travail, de l'oppression dans les corps, elle est là, quoi. Et on peut pas avoir des espèces de pensées comme ça, super belle sur on va tous avoir le même revenu, machin. Ils vont nous prendre notre sécu, ils vont tout prendre en fait, et ils vont nous dire maintenant vous avez 800 euros, démerdez-vous, et ils vont paupériser toute la population, quoi. Je veux dire, ça c'est la fin, quoi.
Quand t'as 0 euros, tu préfères avoir 800 euros.
Mais pas du tout. Enfin, moi, je pense pas du tout qu'il faille voir les choses comme ça. C'est de l'aumône, quoi. On peut pas faire l'aumône de la liberté, quoi. Je suis pas d'accord, quoi.
La liberté, c'est l'argent. L'argent, c'est les moyens de la liberté.
Pas du tout. La liberté, c'est pas du tout l'argent. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais pas du tout, quoi.
On va laisser parler les autres.
Can I just come in here for a moment, just to say that I didn't expect this to be so heated, actually, especially at this time in the morning. But just to say, this idea that people can just have money for nothing, it is corrosive. I've seen it. I've seen the future in Glasgow, and it is apocalyptic. If you go to the areas of Glasgow where the vast majority of the population are living from benefit and have done, as I say, in some cases for a couple of generations, those people are neither happy nor fulfilled. There's a lot of basically the problems that emerge are the sense of a wasted life, because these people have no purpose. Drugs are rife, alcoholism is rife. Within families, usually you find that the family fabric has been torn completely. The fathers are peripatetic. They come, they go. They leave children here, there, and everywhere. The women are usually left to pick up the pieces. These are the results of basically creating a system where you give people a bit of money and you say, hey, don't worry, you don't have to do anything. The happiest people that I know in the world are the people who have something to do that they like doing and are committed to it. And often they're the hardest workers as well. You have to find... There's not a problem with providing this income. I don't have an issue with the concept of the universal basic credit, but it has to be fixed to something. There has to be a sense in the lives of the people who receive it that they are doing something, that they exist for a purpose. destroyed the old purposes, religion, nationalism, these kind of beliefs in the what validates us as human beings. Those are gone now. I don't think we can get them back. I wouldn't want most of them back. And these attempts you're seeing in Trump's America and Brexit Britain to kind of drag them back are catastrophic. But you have to come up with something else. That's the point. Personally, I think that has something to do with education. I think there's, and I think, one, if you can create an idea that children grow up expecting to learn for the rest of their life, they're not brought up. I'm as guilty as this as everybody else. You know, I celebrate the weekend when it arrives, and my son comes home from school on Friday, and I say to him, "Hey, we don't have to go to school tomorrow morning." You know, we have this concept of education as something that you have to go through. And this is the problem. Of course, I found later in life, as I got older, I actually enjoy learning things. I get pleasure from finding out how to do stuff. I'm not just talking about book learning. I mean, I learned quite late in life to be a rock climber, and that was intensely satisfying. The way it changed me physically, the way it changed me mentally, emotionally, I am a materialist, but at some level you could call spiritual. Learning to rock climb changed me that level. So there is an infinite number of things that we can learn as human beings. And what we need to inculcate is the idea that it's our duty to go out there and to learn as much as we can and to maximize our knowledge of the world, if you like. Okay, if you can bring up a rising generation who have that vision of what their purpose in life is, to explore, to seek out brave new disciplines, to boldly go where their parents' generation never had the time or inclination or money to go. If you can do that, then your universal basic credit isn't a problem, because that's just how you get there. That's just the fuel that powers you along. But you have to have the validity, okay? And as I said, Glasgow is the apocalyptic version of this, where the money supply is there, these people don't starve, but they are poor in other ways. And that poverty reveals itself in the ripping of social fabric, destruction of social fabric, and you end up with very unhappy human beings who are in a spiral of self-destruction.
Anne.
que dire? La parole féminine est difficile à faire passer. Je ne sais pas, il y a une espèce de majorité de paroles masculines en matière de...
Mais non.
Si, enfin, on peut compter le temps, amenons-nous à compter le temps de parole des uns et des autres. Bon, toujours est-il que ce que je remarque, simplement comme ça, c'est que dès qu'on parle de payer les gens, que ce soit les fameuses ménagères, que ce soit les enfants, que ce soit les gens en général, etc., il y a une levée de bouclier. Je ne fais que le constater. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, il y a une telle levée de bouclier dès qu'il est question d'assurer un salaire minimum aux gens. Deuxième chose, on considère que les gens sont tellement bêtes qu'ils n'auront pas l'idée d'adhérer à des associations, de développer leurs propres activités, et ça, je crois que c'est faux. Troisième chose, les jeunes aujourd'hui, je suis en contact avec eux par diverses façons, du point de vue professionnel, mais aussi par mon entourage. Les jeunes ne veulent plus travailler pour le grand capital, du point de vue idéologique, et ils se débrouillent, ils et elles, par divers moyens. Les gens font des habitats groupés, habitent en colocation, travaillent dans le Thalys pour avoir le billet gratuit pendant... se dépatouillent, font les fins de marché, et finalement, ils vivent adossés à une sorte de dégradation totale du capitalisme représentée, mettons, par Auchan. Je ne sais pas, je prends Auchan au hasard, hein, je n'ai rien contre Auchan spécialement, mais c'est un peu toute cette tendance actuelle à n'avoir que les miettes. Les jeunes se sont rendus compte qu'ils n'ont que les miettes, qu'ils n'auront que les miettes, ni retraite, ni rien. Et du coup, ils s'adossent à cette espèce de montagne dégoulinante qui est symbolisée par le grand magasin, mais ça pourrait être autre chose. Et ils récupèrent ces miettes et ils se disent, au moins ces miettes, on en fera quelque chose. Et ils développent des activités propres. Ils n'ont pas besoin de l'État pour développer des activités propres, pour que l'État leur dise, travaillez, faites ci, faites ça. On peut faire autre chose, on peut s'intéresser à d'autres choses et le faire, et s'éduquer, et faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas obligatoire que ce soit forcément une dégradation. Alors il me semble que ce que mon collègue met en jeu, c'est l'idée... I'm speaking, don't coupe la parole. Ça, c'est la base. Non, quand une femme parle, on se tait. OK ? D'accord. Alors je disais... qu'est-ce que c'est fatigant, vous ne vous rendez pas compte, c'est fatigant. Alors, je ne sais plus ce que je disais, du coup, c'est normal. Ben oui, ben voilà. Merci.
Je sais
sais plus ce que je disais. Oui, je voulais dire quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant.
Yeah, sorry, I just wanted to say it doesn't have to be, but I'm talking about what is at the moment, and you have
oui,
to put systems
sûr.
In place to ensure that if there's a transition, it works. And I think just to say,
it's going to be a long transition.
Yeah, exactly. I think that's the point.
Anne.
Oui. Oui, mais aussi, du coup, ça part. Non, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Sylvie.
Oui, je voulais revenir sur le problème de Glasgow, parce qu'effectivement, ces gens qui ont subi le chômage, ils sont à la fois détruits par le chômage et par le travail. Et c'est pour ça que lorsqu'ils se retrouvent effectivement dans une situation où on ne leur donne pas de quoi vivre correctement, on leur donne de quoi survivre. Et ça détruit les gens. Ils sont détruits par le fait que le travail est la valeur unique qui permet d'être intégré dans la société. Vous n'êtes pas intégré, entre guillemets, dans la société parce que vous existez, que c'est un individu, et qu'en tant qu'individu et que personne, vous avez droit à l'existence, parce que ça devrait être la règle. Mais là, non. Si vous n'avez pas réussi, d'une manière ou d'une autre, à vous trouver votre place, ou à piquer celle du voisin, à trouver le fameux boulot, vous n'existez plus. C'est ça qui est une violence extraordinaire et qui détruit les gens. C'est pas le rassurer des moyens de survie.
Dave,
ouais. Là, je suis d'accord avec toi.
Oui, déjà, je voulais pacifier un peu la discussion. C'est vrai que je me suis un peu enflammé, mais c'était des sujets qui me touchent énormément. Et j'espère que je vous ai pas montré une forme de d'autorité là-dessus. Moi, je voulais juste préciser quelque chose. C'est que je pense qu'on est tous et toutes intéressés par ce qui touche à l'humain ici, quoi. Et je crois que cette déshumanisation par l'argent gratuit, entre guillemets, elle est dangereuse juste dans le contexte qu'on est en train de vivre en ce moment. Et effectivement, si on se projette dans une transition longue, on peut essayer de commencer. C'est justement grâce aux jeunes. Moi aussi, je travaille avec des enfants très très jeunes et des filles notamment, parce que moi je pense que l'avenir de l'homme est la femme. Donc je ne suis pas quelqu'un qui...
L'avenir de l'humain, tu veux dire ?
Oui, mais c'est ça, oui, bien sûr. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et je rejoins aussi les questions d'éducation. Et je veux dire, si on met le savoir, l'accès au savoir et l'accès au développement personnel, et finalement à placer l'humain dans une espèce de trajectoire comme ça, où on va révéler la conscience de plus en plus et on va se doter des outils sociétaux pour pouvoir faire ça, par l'argent, par d'autres systèmes, parce que l'argent n'est pas une valeur fatale, on peut trouver des choses qui peuvent fonctionner aussi, quoi. Effectivement, tout est possible, mais aujourd'hui nous avons un nœud très important à dénouer, qui est cet aveuglement que nous avons face à la réalité du pouvoir, quoi. Et je crois que c'est de notre devoir à nous, autrices et auteurs, de comprendre que les théories que nous pouvons esquisser, aussi belles soient-elles, aussi structurées soient-elles, elles doivent prendre en compte l'oppression actuelle. Et les femmes le savent, et les trans le savent, et les homos le savent, et les minorités le savent. Et tout ça, on le sait, et c'est vécu. Et la mise en esclavage et la création d'un camp de concentration global aujourd'hui, c'est actif, c'est là, c'est parmi nous déjà, quoi. Alors je sais que je suis un peu apocalyptique quand je dis ça, malgré tout je suis optimiste, mais c'est parce que nous devons voir ça que nous allons réussir à le détruire, en fait. Si nous ne le voyons pas et si nous nous conformons à une forme de vision de l'entertainment glorieuse et lumineuse qui par sa geekerie nous emmènera dans une utopie, c'est fini pour nous, en fait, et nous passerons comme rien, quoi. Alors que non, on a un rôle de militante à jouer fondamentalement ici, là, dans la SF, dans l'écriture et dans le réel, quoi. Voilà, c'est pour ça que je me suis un peu emballé. C'était juste parce que je vois cette détresse de l'humain, en fait, quoi. Voilà, Anne.
Ah, vas-y, Anne.
Oui, mais je crois que tu as raison, effectivement. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Sam Bourcier, Homo Incorporated, qui est en français malgré le titre, et qui pose le problème justement de la communauté LGBTQ par rapport à la violence, de l'intégration, notamment de la surveillance des populations. Alors Sam a élaboré un triangle. On a d'un côté la surveillance de la population, il appelle ça biopolitique, enfin, le triangle biopolitique, où le contrôle des populations est extrêmement important, et l'interdiction d'être gender fluide, d'être autre chose que dans la binarité homme-femme, donc c'est pour ça qu'il y a effectivement une lutte extrêmement violente de la part d'une certaine forme de population, dont les trans, et qui sont maintenant la figure de proue, enfin, Bon, les gays n'ont plus rien à faire, sinon faire des clubs de sport, comme disait un ami gay, il n'y a plus tellement d'éléments. Donc je pense aussi que c'est par des pointes comme ça, c'est-à-dire des jeunes qui ne veulent plus, qui veulent faire du protéger les autres, qui veulent faire que des métiers où on protège, où on sert les autres et pas servir le capitalisme. Des gens qui se dépatouillent en faisant de la geekerie, en vivant de leur geekerie, populations minorisées, je parle des trans, mais on pourrait aussi bien parler de toute autre population, qui finalement sont des espèces de fer de lance, de pierre de touche, qui vont faire peut-être évoluer cette image horrible du travail qui nous attend.
Alors on va maintenant passer à une séance de questions-réponses. S'il y a des questions, on a 10 minutes pour des questions. Voilà, le micro va circuler.
Bonjour. Bonjour, je voulais apporter juste un petit témoignage. Moi, je fais de l'expertise pour les comités hygiène et sécurité conditions de travail. Donc aujourd'hui, j'interviens pour une entreprise qui fait de la maintenance industrielle lourde. Donc voilà, c'est des sous-traitants. Et il s'avère que l'entreprise va assez mal, ils ont perdu des contrats. Et il y a des gens qui ne sont pas mis dehors, mais du coup, ils n'ont pas de travail en ce moment. Donc ils sont dans les ateliers de l'entreprise et ils font divers trucs, mais ils ne travaillent pas beaucoup. Et ces gens sont malheureux. Ces gens sont malheureux et pourtant, ils sont pas, c'est pas comme à Glasgow, ils touchent pas les minima sociaux, ils ont un vrai salaire. C'est des ouvriers qualifiés, ils gagnent, alors ils gagnent pas des milliers de cents, mais ils gagnent un salaire qui est largement suffisant pour vivre là où ils habitent, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de travail. Et je pense que peut-être ce que vous avez développé au début de supprimer le travail, alors peut-être à travers l'automatisation, la digitalisation, pour aller de plus en plus vers une vie de loisirs et de divertissement, c'est plutôt une vision bourgeoise de la société. Et je pense que le travail, c'est quelque chose qui structure individuellement et qui structure collectivement. Et par ailleurs, je pense que cette question de l'automatisation, si vous me permettez l'expression, c'est de la pure connerie. Parce que on a dit ça à toutes les époques, depuis la révolution industrielle, on l'a dit en faisant des machines, on va supprimer le travail, etc. On n'a jamais travaillé autant aujourd'hui. Dans les années 70, le taux d'emploi il était de 67%, aujourd'hui il est de 82%, alors qu'on est plus nombreux. Donc il a augmenté relativement, et il a augmenté numériquement. Ça veut dire qu'on travaille de plus en plus. Donc il n'y a pas une disparition programmée du travail, et les chercheurs et chercheuses, notamment, je pense à Dominique Méda qui a écrit dessus, en sont revenus, quoi, qui disait le travail va disparaître et qui constate aujourd'hui que ce n'est pas la direction que ça prend. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Voilà.
Une réaction peut-être. Merci. Hein. Oui, une réaction. C'est bon ? Très bien. Et il y avait d'autres questions ?
Ah, oui, Sylvie. Non, mais je pense que les gens qui sont malheureux parce que en fait, ils travaillent toujours, donc leur temps est toujours employé. Mais effectivement, leur cerveau et leur être n'est pas satisfait parce qu'ils s'ennuient ou parce que les conditions sont déplaisantes. Donc c'est pas le travail en tant que moyen d'obtenir de l'argent qui vous permet de vivre qui nous est utile aux êtres humains. C'est d'activité, c'est de faire des choses qui nous font plaisir et qu'on aime. L'idée d'un futur où il n'y aurait plus de travail, c'est l'idée où il n'y aurait plus de travail très pallium, c'est-à-dire le travail qui est forcé, qui est une souffrance et qu'on ne choisit pas. Mais très peu de gens, en fait, sauf quand ils n'ont pas les moyens, quels qu'ils soient, personne ne choisit rarement de ne rien faire. Les gens font des choses, ils font des activités, ils ont des assos, ils montent des choses, ils s'occupent les uns des autres. Enfin, ils font des choses, même si on l'appelle pas, travail. Donc je pensais pas. Quand on pense à loisir, on pense en général des gens assis le cul sur une chaise qui font rien. C'est pas ça. Je pense qu'il faut que ce à quoi il faut penser.
Une autre question, on va prendre. Il y avait quelqu'un, non?
Oui.
Ah, derrière, voilà, merci.
Oui, alors j'aurais bien aimé avoir votre avis aux uns aux autres sur le problème de la formation, justement, qui nous pousse dans les bras de la grande machine aujourd'hui. Vous en êtes à peu près tous d'accord, j'ai l'impression. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui former la jeunesse de façon à ce que, le jour où il n'y aura plus de travail, elle ne soit pas désœuvrée?
Alors, oui, je vais parler directement parce que je me sens directement concerné par le sujet. Moi, j'ai rejoint un collectif de nanas à Montréal et on s'occupe des très jeunes, en fait. On s'occupe des enfants décrochage scolaire, on s'occupe des enfants en difficulté, des enfants des minorités immigrées qui ont des problèmes de langage, et on les initie à tout un tas de trucs. Notre dispositif, en apparence, parce qu'il faut bien rentrer dans l'éducation, et il faut savoir un truc, c'est que l'éducation, elle ne se prend pas frontalement quand on essaye d'ouvrir les esprits, et de libérer les esprits, l'esprit des enfants. Quoi. Parce que, in fine, c'est ça le truc. Hein. C'est vraiment libérer les enfants, quoi. Libérer les enfants de la condition dans laquelle ils sont. Quoi. Et le moyen de faire de l'entrisme en fait, vis-à-vis de l'éducation, c'est de dire on va faire de l'alphabétisation numérique. Je sais, c'est terrible à dire, mais c'est ça. Donc en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'apprends à des gamines de 6 ans à coder des variables et à devenir des hackeuses. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Même parce que mon but, c'est pas du tout ça. Mon but, c'est la poésie, mon but, c'est la créativité, mon but, c'est ça. Mais je sais que ce qu'il faut que je rende absolument à ces enfants, en premier lieu, c'est la capacité de penser par eux-mêmes et la capacité d'avoir confiance en eux-mêmes et d'avoir confiance dans les outils dans lesquels on leur donne. Quoi. Et souvent, ces enfants décrochage scolaire à qui j'apprends, j'essaye d'apprendre des choses, enfin, je ne leur apprends pas, je les laisse faire des choses et je les aide si jamais ils ont besoin. Quoi. C'est vraiment pour moi de déclencher chez eux ce rapport à « je suis capable de », même si la normativité de l'école et la normativité de ma famille me fait croire que je ne suis pas capable parce que je ne rentre pas dans les cases. Quoi. Et ça, je crois que c'est, en tout cas, de mon petit filtre et de ma petite expérience, c'est fondamental. J'ai été, moi, on m'a bouleversé, ça me bouleverse de faire ça. Les parents, moi, j'ai une femme qui est venue me voir parce que j'ai réussi à faire en sorte qu'une jeune fille code, apprenne à coder. Sa mère vietnamienne, immigrée, est arrivée, m'a pris dans ses bras en larmes. Elle m'a dit, vous vous rendez pas compte, ce que vous m'avez donné là, c'est des arguments pour dire à son père que sa place n'est pas dans une cuisine, mais dans sa chambre à apprendre des choses, quoi. Ça, pour moi, c'est, moi, j'apprends ça et j'imagine que si tu travailles avec des enfants, c'est exactement ce que tu ressens aussi, quoi. C'est si on veut vraiment changer les choses, c'est là qu'il faut travailler. C'est pas les adultes, ils s'organisent, ils font des choses. Les enfants, c'est le futur, quoi. C'est là qu'on doit faire des choses. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre à l'éducation traditionnelle qu'il y a de nouvelles manières d'apprendre. Le game design, par exemple, c'est une manière d'apprendre à apprendre, quoi. Et il y a tout ça à développer, en fait, avant de les gaver et avant de les mettre dans des bouts pour qu'ils aillent rentrer dans des cases de travail spécifiques.
T'as donc combien d'enfants dans tes groupes ?
Ça dépend. En général, j'en ai une douzaine.
Voilà, voilà la réponse.
Voilà.
La réponse. Nous, on a des classes de 30 et de 35, et oui. Voilà.
Mais je suis pas dans l'éducation, moi. Moi, je suis vraiment.
Moi, j'y suis plus.
Voilà, moi, je suis vraiment dans des ateliers à côté, donc je suis pas dans des classes de 30, ou qui est la norme aussi au Canada, parce que je suis au Canada. Voilà, il faut quand même le savoir.
But I think that's a very valid point because if you go into secondary schools in most certainly in my country and I think in most countries in Europe, you will find class numbers in the 30s and 40s, and nobody in professional education believes that that's a good thing. That's just what's being allowed by the powers that be. In actual fact, I was a teacher for 14 years, and I know that an ideal group probably is between 8 and 16, something like that. So you can double the amount of teachers, bang, in a stroke, just by saying, we're going to do this job properly. So yeah, it's. I mean, I think David is right in the sense that there's an oppression is in place, and yeah, the root structure of this oppression is basically holding the purse strings and saying how much money we're prepared to allocate to these very important social services like education. And yet that has to change. There has to be a sense that this is not just a thing that we allow a trickle of money into. This is the lifeblood of our society and we have to invest heavily in it. But, you know, try convincing the leaders of my country of that.
Anne, pour le mot de la fin.
Moi, je dirige un master professionnel pour lequel je vais faire, pardonnez-moi, 3 minutes de pub, pour dire qu'on a créé ce master parce qu'on ne voulait pas laisser les filles voiler sous Sarkozy. Fin de citation de ma collègue Mathilde Lévesque, spécialiste de littérature de jeunesse. Et notre master donne un métier dans les mains aux filles. Donc on leur apprend InDesign, la PAO, le web, enfin tout ce qu'on a nous-mêmes fini par apprendre. Et l'intérêt, c'est que ce n'est pas un master genre, hein, ce n'est pas un master on va théoriser sur le genre, mais c'est un master où on donne aux filles, j'ai jamais trouvé une meilleure formule, un métier dans les mains. Et c'est toute notre action, donc Paris 13, métier du texte et de l'image, dirigé par Anne Larue et Anne Sina, c'est nous.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Richard, Sylvie, Dave et Anne. Et merci à vous, le public.
Merci à tous.